Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La France doit procéder au rapatriement de l'ensemble des enfants et des mères détenus en Syrie, un appel de la Ligue des droits de l'homme après le retour de 35 mineurs et 16 mères. Son président, Maître Patrick Baudouin, sera l'un de nos invités. Après cette décision de Paris, la réaction dans votre édition de la députée de Paris, membre de la NUP, Sandrine Rousseau, pour qui il était temps de prendre cette mesure. Des centaines de milliers de pèlerins musulmans ont entamé le pèlerinage à la Mecque. Ils ont commencé à se diriger vers le site de Mina pour l'un des rites majeurs du Hajj. La première ministre a prononcé hier à l'Assemblée nationale son discours de politique générale. Elle a annoncé la nationalisation à venir d'EDF, Elisabeth Borne, qui a promis que le montant de l'allocation adulte handicapé ne dépendrait bientôt plus des revenus du conjoint. Nous reviendrons sur ces annonces avec le député et secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel. Le discours de la première ministre a été marqué par quelques huées et invectives. Pour le député Renaissance Karl Olive, l'image que l'on renvoie aux Français est pitoyable, vous l'entendrez. La Coupe d'Afrique féminine des Nations, la Zambie a gagné hier à Casablanca, 1-0 face à la Tunisie. Le président de la Ligue des droits de l'homme accueille avec satisfaction le rapatriement en France de 35 mineurs et 16 mères détenus dans des camps de djihadistes en Syrie. Les mères ont été remises aux autorités judiciaires et les enfants au service d'aide à l'enfance. Maître Patrick Baudouin émet néanmoins plusieurs bémols. Le président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains.
C'est évidemment avec satisfaction qu'on a accueilli ce rapatriement de 35 enfants et 16 femmes djihadistes, avec deux bémols. Le premier, c'est que il a fallu attendre bien longtemps pour que la France en vienne à ce rapatriement, puisque le dernier en date remontait au mois de janvier 2021, c'est-à-dire près d'un an et demi. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que c'est un rapatriement partiel. Alors, on comprend très bien qu'il soit extrêmement difficile de rapatrier tout le monde en même temps, mais il ne faut pas oublier les 160 enfants qui restent encore dans les camps, avec, on pense qu'il y a à peu près une soixantaine de femmes également. Beaucoup reste encore à faire.
Il s'agit, selon vous, d'un changement de cap de Paris, le rapatriement de femmes djihadistes de Syrie vers la France?
Oui, je pense que c'est quand même un abandon de cette politique qui était dite du cas par cas et qui était vraiment une pratique détestable, condamnable et condamnée. L'idée était, soi-disant, qu'on allait rapatrier les enfants qui étaient dans les situations de plus grande vulnérabilité. Or, tous les enfants sont dans un état vulnérable. Ce sont des enfants en bas âge qui se trouvent détenus, cantonnés dans des camps où les conditions sanitaires sont absolument épouvantables, des camps où règne un climat de violence, où évidemment ils sont privés d'éducation avec des problèmes psychologiques inévitables. Bon, c'est d'ailleurs, on a parlé de traitements inhumains. Cette politique du cas par cas, elle est abandonnée. Il était grand temps qu'elle le soit. Elle était intenable et injustifiable. Et pour les autorités françaises, je crois qu'il n'était plus possible d'en rester là. Alors, plus possible, pourquoi? Ben parce que il y a plusieurs raisons, je pense, qui modifient ce changement. Premièrement, les autorités kurdes, depuis maintenant un bon moment, font savoir qu'elles ne pourront pas conserver ouverts ces camps et que donc il faudra bien rapatrier. Il y a une invitation au rapatriement très très ferme de la part des autorités kurdes. D'autre part, beaucoup de pays européens ont rapatrié récemment, et en particulier la Belgique, donc la France se trouvait isolée. Par ailleurs, beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme ont réclamé ce rapatriement. Et puis surtout, il y a des condamnations qui ont déjà été prononcées, enfin ou tout au moins des injonctions données à la France. Alors on peut penser au comité des droits de l'enfant, au comité international des droits de l'enfant. On peut penser en France aux défenseurs ou à la défenseure des droits. On peut penser à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, à la Ligue des droits de l'homme, toute une série d'organisations qui, avec insistance, demandaient ce rapatriement, et sachant qu'il y a un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et que la France était en voie de condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ce qui était vraiment une tâche indélébile qui risquait de peser sur les autorités françaises. Et puis, je pense qu'un autre élément, malheureusement d'ailleurs, c'est que les élections sont passées et que le problème qui était posé par les autorités françaises de réaction de l'opinion publique, qui était un faux problème d'ailleurs, parce qu'il suffisait de faire œuvre de pédagogie vis-à-vis de l'opinion publique, eh bien, désormais, ce n'existe plus puisque les élections sont passées. Et enfin, peut-être le changement aussi de figure au Quai d'Orsay peut avoir joué. Je pense que Mme Colonna sera plus ouverte tout de même que ne l'était M. Le Drian, qui est resté sur des positions très fermes et extrêmement négatives.
Cela suscite toujours une controverse en France, notamment le rapatriement d'Emilie Conning, qui est l'une des djihadistes françaises, qui est accusée d'avoir recruté pour le groupe État islamique et qui est accusée d'avoir appelé à commettre des attaques en Occident. Est-ce que vous comprenez cette controverse et que répondez-vous à cela ?
Ce qu'il faut répondre, alors il y avait deux aspects dans cette question des enfants et des femmes dans les camps. Le premier aspect, c'est un aspect, on va dire au sens large humanitaire, de violation manifeste des droits de l'homme et en particulier des droits de l'enfant vis-à-vis d'enfants français. Et puis il y a la question des femmes et la question de la sécurité. Or, on a dit et on réaffirme qu'il était beaucoup plus dangereux et qu'il est beaucoup plus dangereux de laisser les femmes dans les camps, car elles sortiront de ces camps et elles repartiront, si on peut dire, dans la nature et retrouveront en liberté leur degré de dangerosité pour certaines d'entre elles. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce sont des femmes françaises vouées à être jugées par la justice française qui en réclamaient le rapatriement pour précisément pouvoir instruire. Il faut savoir que le coordonnateur du pôle ici des magistrats antiterroristes, M. Depasse, demandait, il n'est pas le seul, mais demandait justement à ce que ces femmes soient rapatriées en France pour qu'elles puissent être, ce qui a été le cas évidemment, incarcérés, que les instructions se poursuivent et qu'ensuite il y ait des procès avec des condamnations prévisibles et certainement légitimes. Et ces femmes faisaient l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Donc c'est la justice française qui les réclame. La justice, on a pu voir à travers un procès récent qui est celui du Bataclan, qu'elle ne manque pas de fermeté quand il s'agit de condamner à des peines extrêmement lourdes. Donc, cet argument qui consisterait à dire « Ah, mais on les rapatrie, pourquoi alors qu'elles ne le méritent pas, en quelque sorte ?» C'est un argument qu'il faut vraiment combattre, premièrement parce que les laisser sur place sur le plan sécuritaire était beaucoup plus dangereux que de les rapatrier, et deuxièmement parce que ce sont des femmes françaises qui doivent rendre compte de leurs actes, de leurs dérives, en étant parties faire le djihad devant la justice française qui fait preuve, il faut le dire, et parfois même à l'excès, d'une très très grande fermeté dans les condamnations.
Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains, après cette décision de Paris, ce rapatriement en France de 35 mineurs et 16 mères détenus dans des camps de djihadistes en Syrie, la réaction de la députée de Paris, membre de la NUP, Sandrine Rousseau, pour qui il était temps de prendre cette mesure. Sandrine Rousseau.
Il était temps, hein, c'est des enfants, ce sont des enfants. On se rend compte de la violence que c'était de rester dans ces camps pour des enfants. On peut quand même leur accorder de l'innocence aux enfants. Ou alors c'est génétique le fait de faire le djihad. Enfin c'est quoi ce qu'il y a derrière? Là on avait des enfants qui étaient en grand danger, y compris sur leur propre santé. Des mères aussi qui étaient en grand danger. Les mères elles doivent répondre de la justice en France, il n'y a pas de problème avec ça. Mais les enfants doivent être protégés, ce sont des enfants de nationalité française. C'est incroyable qu'on les ait laissés si longtemps dans les camps.
Et sur le retour de ces mères, ces femmes djihadistes dont certains ont appelé à commettre des actes terroristes. Vous saluez ce rapatriement pour certaines ONG. C'est un bon point sur le plan sécuritaire, ce retour en France.
Mais il nous faut les faire passer par la justice. Il faut qu'elles passent par la justice. Et si elles doivent être emprisonnées, même sur de très longues peines, il faut qu'elles soient emprisonnées sur de très longues peines. Mais là, enfin, on ne... On ne peut pas se satisfaire de laisser des gens, et particulièrement, encore une fois, des enfants, parfois très petits, parfois des nourrissons, dans des conditions d'insalubrité et de pauvreté, de non-accès aux soins, comme c'est actuellement. Franchement, ces enfants-là n'ont rien fait. Ils n'ont rien demandé. Donc il était temps de les rapatrier.
Est-ce que vous demandez le rapatriement de l'ensemble des femmes et des enfants retenus aujourd'hui en Syrie ?
Oui, bien sûr.
La députée de Paris, membre de la NUP, Sandrine Rousseau. Des centaines de milliers de pèlerins musulmans ont entamé le pèlerinage à la Mecque. Ils ont commencé à se diriger vers le site de Mina pour l'un des rites majeurs du Hajj. Pour ce rite, de nombreux fidèles font le voyage à pied jusqu'à Mina, à 7 km de la grande mosquée de la Mecque, site le plus sacré de l'islam. Cela avant le rite principal au mont Arafat, où le prophète Mohammed a prononcé son dernier sermon. Le groupe algérien Sonatra annonce avoir signé avec que le français Engie, un accord de vente et d'achat qui étend leur partenariat au gaz naturel liquéfié, accord qui se traduira par l'augmentation de la part du groupe algérien dans le portefeuille d'approvisionnement d'Engie. À cause de l'inflation, 71 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté en 3 mois. En cause, la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie dans le monde. Un rapport du programme des Nations Unies pour le développement indique que cette accélération de la pauvreté est considérablement plus rapide que le choc de la pandémie de Covid-19. Les États en situation la plus critique sont dans les Balkans, dans la région de la mer Caspienne et en Afrique subsaharienne, en particulier au Sahel. La préfecture maritime de la Manche a porté secours à une série d'embarcations qui tentaient de traverser la mer clandestinement vers l'Angleterre. Elle a ramené à terre 166 candidats à l'exil. L'un d'eux a dû être héliporté vers un hôpital en France. Ces personnes ont été prises en charge par la police aux frontières. C'était hier le grand oral pour la première ministre. Elisabeth Borne a prononcé à l'Assemblée nationale son discours de politique générale. Elle a annoncé la nationalisation à venir d'EDF, mais aussi la tenue d'une conférence nationale du handicap début 2023. La première ministre qui a promis que le montant de l'allocation adulte handicapé ne dépendrait bientôt plus des revenus du conjoint, comme le demandent les oppositions et les associations. Nous avons demandé au député Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, ce qu'il retenait de positif, selon lui, du discours d'Elisabeth Borne. Entretien avec Fabien Roussel.
Il y a des éléments forcément positifs parce que nous les avons défendus, comme la nationalisation et le retour de l'État à 100% dans le capital d'EDF, ou la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, qui est une mesure forte que nous avons, nous, groupe communiste et GDR, défendu dans le précédent mandat. Enfin, le gouvernement vient de l'inscrire à l'ordre du jour, tant mieux. Mais hormis ça, je regrette profondément qu'il n'y ait rien dans le discours concernant les salaires de tous ces millions de salariés du secteur privé. Rien. Il n'y aura rien pour eux. Les salaires ne vont pas augmenter. Le vôtre, comme tous les autres. Et beaucoup attendent à la veille des vacances de savoir si, enfin, ils vont pouvoir vivre de leur travail. Or, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, il y a une ligne rouge qui est franchie, malheureusement, avec la réforme des retraites. Ils vont demander aux Français de travailler plus longtemps. Et ça, je crains que ça suscite plus que de la déception, ça va susciter de la colère et je le regrette profondément.
Sur les questions liées à la laïcité, comment vous avez apprécié le discours de la Première ministre ?
Mais encore une fois, c'est des discours avec des grands mots et sur le respect des valeurs de la République et de la laïcité. Mais nous sommes, nous, communistes, profondément attachés au respect de ces valeurs de laïcité et de la République. Je l'ai tellement dit pendant ma campagne des élections présidentielles. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ces mots ? C'est ça qui me préoccupe. Parce que vous savez, quand on abandonne des quartiers entiers, quand les services reculent, quand il y a des inégalités fortes entre les habitants, quelque part, c'est la République qui recule aussi. Et c'est cette valeur d'égalité entre les citoyens, eh bien, elle est mise à mal. Alors, moi, les grands mots, je veux bien, mais je veux des actes concrets qui vont véritablement restaurer les valeurs de la République et faire vivre la laïcité dans notre pays.
Et justement, concernant la politique de la ville, la nomination du maire de Clichy-sous-Bois au ministère de la ville, c'est un bon signal pour vous ?
On jugera sur les actes. Il n'y aura pas de politique de la ville efficace s'il n'y a pas les moyens financiers derrière. Or, ce gouvernement prévoit de respecter les règles de Maastricht avec le déficit ramené à 3% en 2027. Ils vont devoir faire beaucoup d'économies pour atteindre cet objectif. Sur quoi ils vont taper? Dans quel budget ils vont demander de faire des économies? Et donc, on peut avoir les meilleurs ministres du monde, s'il n'y a pas d'argent derrière pour qu'ils mettent en œuvre leur politique, ce sera du vent. Et donc, j'attends de voir.
On l'entend sur certaines questions sociales, comme la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Eh bien, ces lois pourraient passer notamment grâce au groupe communiste.
Sous réserve qu'on change d'avis, mais je ne pense pas. Nous avons défendu ce projet de loi lors du précédent mandat. La majorité gouvernementale de Macron a refusé de le voter, et c'est pour ça que ça n'a pas été mis en œuvre. Aujourd'hui, j'entends qu'il souhaite le mettre en œuvre. Tant mieux, bien sûr, nous le voterons. On ne va pas changer d'avis, nous. Et donc, on votera cette mesure si elle est inscrite comme nous l'avions défendue nous-mêmes.
Le député PCF, secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel. Le discours de la première ministre a été marqué par quelques huées et invectives. Pour le député Renaissance, Carl Olive, l'image que l'on renvoie aux Français est pitoyable. Carl Olive au micro de Radio Orient.
J'espère que la France insoumise présentera ses excuses. Ce sont des pitres. Je ne savais pas si, moi qui viens du sport, si on était sur Interville, si on était au Grand Cabaret, ou si on était dans un stade avec des ultras, la prochaine fois, ils vont certainement venir avec des fumigènes. Enfin, c'est une honte. Moi, je n'ai pas été élu député de la Nation pour renvoyer cette image-là. Et j'appelle la présidente de l'Assemblée nationale à revoir sérieusement le règlement intérieur, parce qu'on ne s'en sortira pas. Et aujourd'hui, ce n'est pas un numéro de claquette qu'on doit faire dans une enceinte nationale. On doit renvoyer une image qui soit une image digne pour les Français, parce que c'est ce que les Français attendent. Et moi, aujourd'hui, j'aurais aimé que ces gens-là, qui sont simplement ici pour se faire voir et encore une fois s'invectiver les uns les autres, puissent renvoyer une toute autre image auprès de nos compatriotes. Je crois qu'on n'a pas bien compris la situation du pays. Je crois qu'on n'a pas bien compris. Il y a une urgence. L'urgence de la situation, c'est celle du pouvoir d'achat et de demain. Et ces gens-là devraient pouvoir le comprendre plutôt qu'au-delà de toutes les péripéties qu'ils s'envoient les uns avec les autres.
Vous êtes inquiet pour la suite de la mandature ?
Je ne suis pas inquiet, mais quand on est sur le terrain, les Français attendent une toute autre image de la manifestation nationale et de ses représentants. Quand on est élu de la République, on a des devoirs et ça oblige. Je vois ici les huissiers, je vois les agents de l'Assemblée nationale qui sont formidablement vêtus, par exemple. Et quand je vois parfois les tenues des uns et des autres, je trouve que c'est pitoyable par rapport à l'image qu'on peut renvoyer sur notre pays. Voilà, je suis certainement construit ainsi, mais j'espère qu'il y aura un règlement intérieur qui obligera les uns et les autres à savoir se tenir. Parce que l'image qu'on renvoie aujourd'hui aux Français est pour moi une image pitoyable.
Le député Renaissance, Carl Olive, la Coupe féminine d'Afrique des Nations, la Zambie a gagné hier à Casablanca 1-0 face à la Tunisie. La Tunisie qui jouera ce samedi face au Cameroun pour tenter d'arracher sa qualification pour les quarts de finale. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h18.